Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du club Hygène. Apple Music a finalement son application dédiée pour la musique classique. Apple Music Classical ne devait sortir qu'aujourd'hui, mais finalement, on a déjà pu jeter un œil et une oreille sur cette nouveauté. En deuxième partie d'émission, Stéphane va revenir pour nous raconter son expérience avec Bard, le bot de Google. Ce robot conversationnel n'est pas encore disponible en France, mais on a déjà pu tester ce concurrent de ChatGPT et de Bing. Et alors, est-ce que c'est bien ? On va tout vous dire après le Flash Info. Nous sommes le mardi 28 mars, voici ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité ce matin. Apple Music Classical a fait son apparition dès hier sur l'App Store, pas partout dans le monde, mais au moins dans plusieurs coins d'Asie et du Pacifique. Le lancement de cette nouvelle application était prévu pour aujourd'hui mardi, mais la boutique d'Apple en a décidé autrement. Tant mieux pour nous, on a pu vous proposer un rapide premier aperçu. Comme prévu, on retrouve beaucoup de l'interface d'Apple Music, l'accent est mis sur les nouveaux enregistrements et aussi sur des exclusivités et des listes de lecture d'artistes invités, comme Yo-Yo Ma ou la soprano Fatma Saïd. La musique classique n'étant pas forcément évidente d'accès, l'application propose aussi des playlists pour accompagner l'humeur du moment, ou encore selon les époques ou les genres. On trouve aussi une série sur l'histoire du classique, une sélection d'albums indispensables et un travail sur les grands compositeurs, histoire d'aiguiller un peu les oreilles. Au premier coup d'œil, Apple Music Classical ressemble vraiment à une version classique et un peu tristounette d'Apple Music, il faut bien le dire. Elle sera jugée sur la contextualisation de son catalogue et à la qualité de son moteur de recherche. C'est là-dessus qu'on va se concentrer dans notre test à venir. C'est l'autre grosse info du jour, les iPhone 15 qui sortiront cet automne en France et probablement en Europe pourraient bien se débarrasser complètement de leur tiroir pour carte SIM. C'est une info e-génération et finalement ce n'est pas une très grande surprise. Les iPhone 14 vendus aux États-Unis se contentent en effet d'une carte SIM électronique, autrement dit une eSIM. Ça paraissait assez évident que le fameux tiroir allait partir aux oubliettes par chez nous aussi. Aux États-Unis, malgré les craintes, la transition s'est faite en douceur. Alors il n'y a pas de raison que ça se passe différemment en Europe. En France, les 4 opérateurs prennent l'eSIM en charge, alors ce changement ne devrait pas trop poser de problème. Enfin, on croise les doigts. Ce qui va être intéressant à suivre, c'est comment Apple va exploiter l'espace vide laissé par tout le bazar du tiroir SIM dans l'iPhone. Dans les modèles américains, le constructeur s'est contenté de mettre à la place une simple cale en plastique qui ne sert à rien. Mais si on ajoute aux iPhones américains les modèles européens, Apple aura peut-être les coudées franches pour glisser une batterie un peu plus grosse par exemple. Reste le problème des iPhones chinois qui ont toujours un tiroir à 2 SIM. Et pour le moment, rien ne dit que la transition complète vers l'eSIM soit au programme en Chine. La petite phrase du jour, c'est celle de Michael Kagan, le directeur technique de Nvidia. Selon lui, les crypto-monnaies n'apportent rien d'utile à la société. Un discours paradoxal alors que son entreprise vend des cartes graphiques aux mineurs de crypto-monnaies. Nvidia a même lancé une gamme spécifiquement dédiée au minage en 2021, au plus fort de la folie des cryptos. Le spécialiste des cartes graphiques préférerait qu'on utilise ces produits pour l'intelligence artificielle, là encore un domaine où les capacités de calcul des GPU sont très demandées. Contrairement aux cryptos qui n'apportent rien de bien à l'humanité, je cite Michael Kagan, ChatGPT et les intelligences génératives peuvent avoir des applications potentiellement très utiles pour nous autres pauvres humains. Alors il faudra attendre un peu avant de savoir ce qui sortira de bon de toute cette intelligence artificielle, il est encore trop tôt pour tirer le bilan. Quant aux cryptos, après le gros coup de pompe de ces derniers mois, ça a l'air d'aller un peu mieux au niveau des cours, mais tout ça reste très volatile. Le casque de réalité mixte d'Apple n'a visiblement pas connu une gestation tranquille. On a en effet appris que le développement de l'appareil avait suscité des tensions en interne. Plusieurs employés, on ne sait pas combien, se montreraient sceptiques et inquiets de voir l'entreprise se lancer sur ce marché, encore très balbutiant. Surtout qu'Apple compte y aller avec un casque qu'on prédit très cher, il coûterait dans les 3 000 $. En plus, il aurait des contraintes importantes au niveau de l'autonomie. En fait, il faudrait porter la batterie sur soi et elle serait reliée en filaire à l'appareil. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de dissensions en interne autour de ce projet. Récemment, des indiscrétions ont fait part des doutes des designers d'Apple. Ils auraient préféré attendre pour sortir une paire de lunettes de réalité augmentée. Mais il faudra attendre quelques années avant de voir un tel produit. On devrait finalement connaître le résultat de toute cette intense cogitation durant la WWDC en juin. Enfin, on croise les doigts en tout cas. Entre ChatGPT, Bing et Bard, votre cœur balance, ça se bouscule au rayon des bots qui carburent à l'intelligence artificielle. Mais pour tester celui de Google, Bard donc, ça reste un peu compliqué si on n'habite pas aux États-Unis ou au Royaume-Uni et si on ne parle pas anglais. Et puis, il faut s'inscrire sur une liste d'attente. Heureusement, Stéphane a trouvé une astuce extrêmement complexe et sophistiquée pour accéder à la bêta. Bon ok, il a utilisé un VPN si vous voulez tout savoir. Salut Stéphane!
Salut Mickaël, salut à tous!
Alors tu t'es jeté dans la gueule du loup en testant Bard, mais avant d'accéder au Graal, Google prévient bien que son robot n'est pas infaillible.
Oui, Bard est entouré de multiples avertissements. Ouais. Alors d'abord sur le plan de la confidentialité, Google prévient que les discussions sont enregistrées et qu'elles peuvent être lues par des humains. Ouais. Donc c'est la raison pour laquelle il est recommandé de ne pas entrer d'informations personnelles. Cette collecte de données s'explique par le fait que Bard est expérimental. Donc c'est un moyen pour Google d'améliorer son service en voyant les erreurs de son robot en conditions réelles. D'ailleurs, OpenAI fait la même chose avec ChatGPT. Et puis Google prévient également que Bard peut faire des erreurs. Donc comme sur ChatGPT, tu peux indiquer si la réponse est satisfaisante ou non et signaler ce qui cloche en espérant que ce soit corrigé. Et l'entreprise se couvre un peu en précisant que les réponses de Bard ne reflètent pas son point de vue, forcément. Si Google marche sur des œufs, c'est parce que c'est l'acteur le plus puissant du web, tout simplement. Bard peut avoir des répercussions assez énormes sur l'accès à l'information et l'économie du web. Il y a tous les régulateurs et les concurrents qui sont prêts à sauter dessus Google au moindre faux pas. Et en fait, on voit que Google lance presque Bard à reculons. Il y a des prototypes de Bard qui sont expérimentés depuis 2019 en interne, mais c'est ChatGPT qui a vraiment forcé Google à rendre public son robot conversationnel.
Ouais. Alors Bard, c'est donc la réponse de Google à ChatGPT et à Bing, mais déjà, est-ce que les réponses que donne le robot sont pertinentes par rapport à la concurrence, et est-ce qu'il y a des limitations?
Alors déjà, Bard donne ses réponses très rapidement. C'est une différence importante avec ChatGPT et Bing. Alors, tu ne vois pas la réponse s'écrire au fur et à mesure. Bard la publie d'un bloc, mais c'est beaucoup plus rapide qu'avec les autres robots. Après, il faudra voir si ça perdure quand il y aura des millions d'utilisateurs, parce là, c'est juste une expérimentation avec un nombre limité de bêta-testeurs. Et puis, au niveau des réponses, le principal avantage de Bard par rapport à ChatGPT, c'est qu'il est connecté au web. Et donc, il peut répondre à des questions qui sont liées à l'actualité, alors que les connaissances de ChatGPT sont limitées à 2021. Cela étant dit, la semaine dernière, OpenAI a annoncé un plugin pour ChatGPT qui lui permet de sonder le web lui aussi. D'accord. Et pour les usages, j'ai comparé Bard et ChatGPT en leur demandant de faire un résumé de la finale Coupe du Monde 98.
Je me demande qui a gagné d'ailleurs.
C'est une question qui n'est pas si évidente, tu vois, pour les robots. Je savais que ChatGPT faisait des erreurs factuelles sur cet événement. Eh bien, Bard en fait lui aussi. Par exemple, sur le score final, 3-0, évidemment, Bard peut te dire 3-1.
D'accord.
Donc, c'est décevant parce que si tu fais la recherche sur Google, tu as l'information exacte. Et puis, j'ai comparé les deux robots en leur demandant de créer un titre et des intertitres pour le communiqué de presse du premier iPhone. Alors là, c'est ChatGPT qui m'a donné les meilleurs résultats, avec un titre plus complet et des intertitres plus variés. Mais lors d'autres essais, c'est Bard qui s'en est sorti le mieux.
D'accord.
Et en fait, il y a vraiment mille et une façons d'utiliser un grand modèle de langage. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse définitive sur qui est le meilleur entre Bard et ChatGPT. L'inconvénient principal de Bard à l'heure actuelle, c'est comme tu le disais en intro, c'est que ça fonctionne juste en anglais pour le moment. C'est normal puisque l'expérimentation est réservée aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Alors le truc intéressant avec Bard, c'est que le bot ne donne pas qu'une seule réponse, mais il fait trois propositions. À quoi est-ce que ça sert et est-ce que ces propositions sont très différentes?
Alors je m'en sers pas à chaque fois de ces trois propositions, mais je trouve ça assez intéressant. Si tu n'es pas satisfait entièrement par une réponse de Bard, tu peux consulter les deux autres. Pour une requête assez ouverte, comme par exemple écrire un message de bonne année à tes collègues, les propositions peuvent être assez différentes.
D'accord.
Et puis par contre pour une requête plus fermée, comme par exemple que faire à Lyon avec des enfants là, un dimanche pluvieux. Ouais. Là, ça sera des différences qui sont juste à la marge, avec simplement des phrases reformulées. Et l'intérêt que je vois dans ces propositions différentes, c'est qu'elles permettent aussi de se rendre compte qu'il y a des erreurs. Pour reprendre l'exemple de la finale Coupe du Monde 98, Bard peut donner une réponse avec un 3-0, et puis les autres avec 3-1. Donc là, tu verras qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a forcément une des réponses qui n'est pas correcte.
On a rapidement vu avec ChatGPT et avec Bing que c'était assez facile de jailbreaker les bots. Avec Bard, ça a l'air plus difficile, mais tu as quand même pu contourner une restriction.
Oui, en théorie, donc, à l'heure actuelle, Bard est limité à l'anglais. Ouais. Néanmoins, en rusant un petit peu, en reformulant la requête, c'est possible de lui faire sortir des phrases en français,
d'accord,
de lui faire traduire des choses. Et concernant le jailbreak, alors j'y ai pas passé des heures, mais Bard me paraît plus compliqué à faire sortir de ses gonds que ChatGPT ou Bing.
D'accord.
J'ai essayé quelques techniques pour que Bard dise des choses controversées ou endosse une personnalité un peu spéciale, mais ça n'a rien donné. Le robot de Google s'écarte beaucoup moins du chemin que ses concurrents. Ouais. Après, comme tout logiciel, c'est pas infaillible et je suis sûr qu'il faut s'attendre à des détournements.
Google prend bien soin de dire que Bard n'est pas un moteur de recherche, et ça se comprend parce que Google fait son beurre avec les résultats de recherche. Mais est-ce que c'est tenable comme position? Parce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui utilise ChatGPT comme un moteur de recherche finalement.
Google présente Bard comme une expérience complémentaire à un moteur de recherche, et sous chaque réponse, tu as un bouton Google Hit pour lancer une recherche sur Google. En fait, ça ouvre simplement un nouvel onglet avec une requête. Mais dans les faits, vu que Bard est connecté au web, tu peux clairement t'en servir en tant que moteur de recherche.
Ouais.
C'est même assez redoutable parce que tu as la réponse directement sans avoir à ouvrir plusieurs sites. Mais ça pose tout un tas de questions. Parce que si tu n'as plus besoin de consulter les sites d'actualité pour avoir les infos, qu'est-ce que ces sites y deviennent? Donc en théorie, Bard est censé faire comme Bing, c'est-à-dire mettre des liens vers les sites qui servent de source. En pratique, j'en ai vu quasiment aucun. Alors peut-être que ça sera amélioré dans une prochaine version, mais là, il n'y en avait vraiment presque pas. Et cette capacité de Bard à remplacer un moteur de recherche, ça explique aussi pourquoi Google avance si prudemment. Parce que Bard pourrait cannibaliser Google, le moteur de recherche. Et cela aurait comme conséquence de remettre en cause tout un pan de l'économie du web.
Eh bien, merci pour ce petit retour d'expérience. Maintenant, on va attendre que Google lance son Bard ici en France pour voir ce qu'il a dans le ventre en français. Salut Stéphane.
Salut Mickaël.
Et merci de nous avoir suivis ce matin. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.